Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de la légalisation du cannabis médical au Mexique, de l'implication des jeunes dans le processus de légalisation de la marijuana au Canada, de la difficulté à aider les élèves en difficulté, de Denise Bombardier qui remet les féministes radicales à sa place, de la diminution du nationalisme francophone québécois, des préjugés à l'égard de la foi et des bonnes nouvelles du jour en rafale. Débutons par le Mexique qui veut légaliser la marijuana médicale. C'est effectivement ce que nous apprend la presse, mesdames et messieurs. Voici ce qu'elle nous dit. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a annoncé jeudi vouloir légaliser la marijuana à usage thérapeutique et autoriser la possession de 28 grammes au maximum pour consommation personnelle. Écoutez, mesdames et messieurs, 28 grammes, là, c'est une once. Ça veut dire que vous pouvez vivre, quand je dis vivre, un consommateur de marijuana qui a 28 grammes, il est capable de consommer à chaque jour sa marijuana et être buzzé à tous les jours, avec 28 grammes. Donc, un gramme par jour, c'est amplement pour voyager, puis vous en avez un peu plus. Imaginez si vous êtes deux, trois amis et que, par exemple, vous partagez le même joint, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez vraiment être sur la fête à tous les jours avec 28 grammes. C'est très généreux de sa part. Pour moi, je ne trouve pas que c'est la solution, mais on dirait que la tendance occidentale, c'est de s'en aller vers, justement, progressivement, la légalisation du cannabis médical, qui n'est pas une mauvaise chose, parce que les drogues sont utilisées puis ont leur raison d'être justement pour des fins médicales et non pour des fins récréatives. Mais ce qui arrive, c'est qu'une fois que c'est en place, et on en a déjà parlé autour d'Horizon, c'est qu'il y a des entreprises qui sont déjà prêtes, puisqu'ils font la culture de cannabis pour des raisons médicales, sont déjà prêtes à produire du cannabis pour des fins récréatives. Ils attendent seulement que la loi soit votée afin qu'ils puissent mettre en opération la culture et la distribution. Au Canada, justement, on veut légaliser totalement la consommation de la marijuana pour les adultes. On dit, c'est ce qu'on dit chez les libéraux fédéraux, qu'on veut utiliser cette loi-là pour que le résultat soit que les jeunes soient moins, justement, dépendants de la marijuana ou moins victimes des méfaits de la marijuana. Et ce qui est étrange, c'est que la presse nous dit également que le gouvernement Trudeau tient mordicus à ce que la voix des jeunes soit entendue sur la question de la légalisation de la marijuana et pas seulement celle des experts en santé ou des policiers. C'est exactement ce qui est dit dans un article intitulé « Légalisation de la marijuana, le gouvernement veut impliquer les jeunes ». C'est sûr que ça fait sursauter le député conservateur de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel, qui lui a réitéré que les libéraux faisaient fausse route en voulant légaliser la marijuana. Voici ce que la presse nous rapporte. « Moi, la gang de poteux que j'ai vu hier devant le Parlement en train de fumer de la marie, tout heureux de voir que le gouvernement Trudeau va faire cela, cela démontre bien jusqu'à quel point le gouvernement ne doit pas légiférer là-dessus. Quand je les entends dire qu'ils font cela pour nos jeunes, c'est tellement le contraire. C'est banaliser une situation qui est absolument inacceptable », a dit M. Deltel. Le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, a dit éprouver des réticences face au projet fédéral, craignant qu'il ne banalise l'usage de la drogue. Le chef du Parti québécois, Pierre Calpelado, se dit favorable à la décriminalisation de la marijuana, mais il ne s'est pas prononcé sur la légalisation. La différence, c'est que la légalisation, c'est que c'est permis d'en fumer. La décriminalisation, c'est que tu n'iras pas en prison si tu as une possession simple, mais tu peux avoir une contravention, puis on peut te confisquer la marijuana. Et donc, mais c'est sûr qu'on va toujours par étapes. Hein, on commence par légaliser la marijuana pour des fins médicales, après ça, on va décriminaliser, et après ça, on va s'en aller vers la légalisation. Mais ici au Canada, avec le gouvernement Trudeau, on saute une étape et on s'en va directement à la légalisation. Et donc, ce n'est pas une bonne chose, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, dans un article qui a été publié sur sa plateforme, ofdt.fr, et vous pouvez trouver cela sur cette plateforme-là, dans un article qui est intitulé « Synthèse thématique cannabis ». Qu'est-ce qu'on dit? On dit que son expérimentation, l'expérimentation là, du cannabis, du pot, progresse rapidement entre 11 et 15 ans. Ça, c'est en France. Parce que selon le Figaro, ce qu'on nous dit, dans un article intitulé « Cannabis, pourquoi les jeunes consomment toujours plus de drogue? » Eh bien, l'âge moyen là-bas de la première consommation du cannabis est de 13 ans. Ce qui arrive, ça, c'est l'âge moyen. Donc, mais on commence à fumer du cannabis vers l'âge de 11 ans. Et ça progresse rapidement. Pourquoi je vous dis ça? Bien, c'est parce que même si, par exemple, on dit qu'on veut légaliser la marijuana pour qu'il soit accessible seulement aux adultes, 18 ans et plus, mais vous ne pensez pas que si les jeunes commencent à 11 ans à fumer de la marijuana, qu'ils vont arrêter parce que maintenant ça va être rendu légal seulement à partir de 18 ans? Il y a plein de jeunes qui boivent de la bière avant 18 ans, même si ce n'est pas légal. Ça ne freinera pas la consommation des mineurs. Parce qu'écoutez bien, les normes canadiennes de prévention de l'abus de substances en milieu scolaire, donc vous pouvez retrouver cet article sur le site ccsa.ca ou sur ericlantier.net via le tour d'horizon d'aujourd'hui. Voici ce qu'on nous dit sur cette plateforme. Les normes canadiennes de prévention de l'abus de substances en milieu scolaire s'inscrivent dans la stratégie de prévention en toxicomanie chez les jeunes Canadiens. Stratégie quinquennale lancée en 2007 par le Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies en vue de diminuer l'usage des drogues chez les jeunes Canadiens de 10 à 24 ans. Vous avez bien compris. En vue de diminuer l'usage des drogues chez les jeunes Canadiens de 10 à 24 ans. En France, c'est 11 ans. Ici, au Canada, c'est 10 ans. Et ce n'est pas pour rien qu'on a 21 % des élèves du Québec qui sont handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, qu'on appelle les EHDAA. Écoutez, vous allez dire, « Oh non, t'es alarmiste, Éric, voyons donc, il y en a toujours eu. » Oui, c'est vrai qu'il y en a toujours eu. Mais qu'est-ce que le Journal de Montréal nous dit à cet effet? Eh bien, écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Près de 21 % des élèves font maintenant partie de cette catégorie, donc les EHDAA, alors qu'on en retrouvait 12 % il y a 10 ans. Le financement qui leur est consacré était de 2,1 milliards de dollars en 2012-2013. Mais savez-vous c'est quoi le problème? Eh bien, ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas capable de savoir au ministère de l'Éducation combien parmi ces élèves-là ont réussi à obtenir leur diplôme à la fin du secondaire 5. On consacre plus de 2 milliards de dollars par année et Québec ignore quel est le taux de diplomation des élèves en difficulté. C'est ce qu'a appris le Journal de Montréal. Là, c'est un problème. On a beau injecter de l'argent, si on n'est pas capable d'identifier le résultat, ça veut dire ce qu'on fait, eh bien, ce qu'on fait, on n'est pas certain si ça fonctionne. Et dans quelle proportion ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on doit corriger? Et donc ça implique plusieurs personnes. Ça implique ceux qui ont une déficience visuelle, auditive ou motrice, des déficiences langagières, des déficiences intellectuelles moyennes à sévères, des troubles du spectre de l'autisme, les troubles relevant de la psychopathologie, des troubles d'apprentissage, dyslexie, mesdames et messieurs, pardon, dysorthographie, dyscalculie, déficience intellectuelle légère, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, trouble du comportement, etc. Et donc, C'est un problème assez sérieux, mesdames et messieurs. Un autre problème qui est sérieux, qui a fait les manchettes à plusieurs reprises dans les dernières semaines, c'est toute la question du féminisme. Et là, il y a une femme qui en parle avec aplomb, dans un article qui est intitulé « Quand les femmes déraillent ». Et cette femme-là, c'est Denise Bombardier, une femme en qui j'ai beaucoup de respect. Ce qu'elle va dire, sur la plateforme du Journal de Montréal, ceci. La Fédération des femmes du Québec a toujours dédaigné les groupes de femmes d'affaires, considérant sans doute qu'une femme qui aspire à la réussite financière n'est pas tout à fait une femme puisqu'elle refuse la victimisation. C'est aussi la vision de Québec solidaire, allergique au succès personnel des femmes. La gravité de cette affirmation oblige à des discussions autrement plus documentées et sérieuses que les coups fourrés des femmes politiques entre elles et les attaques fallacieuses contre un gouvernement à qui l'on peut faire maintes reproches, sauf celui d'être le bourreau des femmes. Et pourquoi elle dit ça? C'est parce que justement, il y avait une députée péquiste qui attribuait au gouvernement libéral du Québec d'être des bourreaux envers les femmes à cause de leur politique d'austérité. Et là, elle remet les pendules à l'heure et elle dit, bon, on doit cesser justement ces discussions qui sont à ce stade-ci vaines et plutôt penser débattre sur des sujets qui sont somme toute plus importants. Et un sujet qui est très important pour Mathieu Bock-Côté, qui est un souverainiste avoué, eh bien, il déplore le fait que, justement, toute la question de la souveraineté et du nationalisme est en perte de vitesse. Je vous invite à lire cet article-là que j'ai commenté sur la plateforme du Journal de Montréal. Cet article qui s'intitule « Un Québec en 1000 morceaux ». Et moi, je peux vous dire une chose. Si le Québec n'est plus uni, si le Québec ne représente plus une voix, s'il est de plus en plus divisé, c'est pour une raison bien simple, mesdames et messieurs, c'est que les politiciens n'ont pas le courage de mettre en valeur notre patrimoine, notre historicité et notre distinctivité. Non, ils préfèrent faire de l'aplaventrice devant les laïcistes intransigeants qui ne veulent pas qu'on ait un crucifié à l'Assemblée nationale, qui vont s'offusquer à ce qu'on fête la Saint-Jean-Baptiste et qui s'opposent à ce qu'on se souhaite joyeux Noël. Savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Lorsqu'on bafoue nos origines, bien, ça démontre qu'en dénigrant notre passé, on ne sait plus où on s'en va. Tant que nos leaders n'opteront pas pour une approche patriotique communautarienne, on va avancer nulle part. Pire, on va se fragmenter davantage. J'y reviendrai, mesdames et messieurs. J'aurais aimé vous parler du fait que Jeff Filion, qui a fait des commentaires malheureux à l'égard du fils d'Alexandre Taillefer, qui s'est enlevé la vie, eh bien, va voir son burger disparaître des restaurants Cosmos. Et donc, le burger à Jeff n'y sera plus. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, vous pouvez me répondre sur ericlantier.net, c'est est-ce que les conséquences qui sont attribuées à Jeff Filion sont proportionnelles à son offense, d'après vous? Est-ce que son congédiement, le fait qu'on retire son hamburger, est-ce que c'est parfait, c'est suffisant ou c'est trop? J'aimerais vous lire là-dessus. Oh, je vois que le temps file, j'ai juste le temps de vous proposer un autre article, mesdames et messieurs. « Implorer tous les dieux » de Nathalie Elgrabli-Lévy. Et elle va dire justement que même si Ted Cruz est celui qui comprend le mieux l'économie que tous les autres candidats républicains, eh bien, on préfère lui reprocher d'être ultra-conservateur et religieux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? C'est qu'on est en train de perdre un candidat aux États-Unis qui a énormément de valeur, mais parce qu'il est justement ouvertement contre l'avortement et le mariage gay, eh bien, il y a une grande partie des électeurs qui vont le mettre de côté. Alors, elle déplore ça, et je trouve ça intéressant qu'une femme de cette envergure déplore des sujets comme ça. Il y en a très peu, et ça vaut la peine de les mettre en valeur. Et c'est pour ça que cette émission est importante, pour justement mettre en valeur ceux qui disent de bonnes choses. Un autre point qui est renversant, Québec verse 16 140 $ pour démontrer qu'une passoire n'est pas un signe religieux. Vous trouverez ça sur la presse et également, le lien est accessible sur ericlantier.net. Mais le temps file et donc je dois aller immédiatement aux bonnes nouvelles en rafale, eh bien Tangerine doublera les dons versés par ses clients à la Croix-Rouge pour venir en aide à l'Équateur jusqu'à concurrence de 25 000 $. Ensuite, mesdames et messieurs, Hydro-Ottawa, déterminé à être l'une des compagnies d'électricité les plus écolos au Canada, et un train électrique à 5,5 milliards pour Montréal va voir le jour en 2020. Alors sur ce, chers auditeurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, eh bien je vous dis à lundi.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!